La première,
Le Monde en direct.
Julie Morel et Pascal Claude.
18h44, plus que 7 fois dormir avant le début de la Coupe du Monde de football.
48 équipes, 104 matchs, 3 pays, ce sera la plus grande Coupe du Monde jamais organisée et peut-être la plus politique.
Ouais, c'est en tout cas l'avis de notre invité, Kevin Vessière, fondateur du média FC Géopolitique. C'est auteur de cet ouvrage intitulé Mondial 2026. Bonsoir Kevin Vessière.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Eh ben merci de l'avoir accepté, cette Coupe du Monde au Canada, au Mexique et surtout aux États-Unis où se tiendront la grande majorité des matchs. Qu'est-ce qui la rend donc si politique, Kevin Vessière ?
Bah, ce qui la rend si politique, c'est qu'il y a en fait trois facteurs qui sont présents. La première, c'est que ça a lieu dans les États-Unis de Donald Trump et que Donald Trump, en tout cas depuis son second mandat qui est institué en 2025, il a instrumentalisé la compétition à travers différents exemples, que ce soit en tout cas avec la création d'un groupe de travail appelé Task Force pour gérer une organisation du mondial alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Pas mal de discours pour en tout cas valoriser le fait que ça va être la plus grande coupe du monde parce qu'elle va avoir lieu aux États-Unis alors que c'est une Coupe du Monde qui est co-organisée et une FIFA qui est assez complaisante vis-à-vis de Donald Trump et qui l'a en quelque sorte adoubé avec une remise d'un prix de la FIFA en décembre dernier lors de la cérémonie du tirage au sort. Le deuxième élément, c'est qu'il y a le contexte finalement de la guerre au Moyen-Orient et l'Iran qui participent à cette Coupe du Monde. On ne sait toujours pas si l'Iran pourra jouer ses matchs sur le sol américain parce qu'ils sont toujours en attente des visas et surtout on ne sait toujours pas si Donald Trump un matin il va pas se réveiller et dire je ne veux pas des joueurs iraniens sur mon territoire. Et le troisième aspect, c'est plus l'aspect de l'accueil de cette Coupe du Monde qui la rend politique, avec tout ce qui a trait aux visas et certains ressortissants de pays qui ne peuvent pas venir sur le sol américain. Mmh. Et finalement, l'impression que c'est une Coupe du Monde où il faut plutôt s'adapter aux règles des États-Unis, alors qu'on a plus envie de voir une Coupe du Monde dans laquelle on veut accueillir véritablement l'ensemble de la planète.
Alors, vous l'avez dit et vous l'écrivez dans votre livre, c'est un peu la Coupe du Monde de Trump, une vitrine MAGA. Contrairement au Qatar, qui avait besoin d'exister en tant qu'État aux yeux du monde il y a 4 ans, qui avait fait du sport une vraie arme de soft power, les États-Unis, ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Le soft power, ça fait bien longtemps que ça existe. Ils n'ont pas besoin de démontrer leur puissance. Qu'est-ce qu'il a vraiment à gagner, Donald Trump, dans cette histoire ?
Bah, ce que Donald Trump a à gagner, finalement, c'est... Lui, ce qu'il veut, c'est aussi attrait à sa politique de MAGA et aussi America First. Hein, c'est de montrer qu'en fait, les États-Unis, ils sont les meilleurs sur tous les plans, y compris pour organiser une Coupe du Monde dans un pays où c'est pas le football, le sport le plus majoritaire et le plus populaire. Mais après, comme vous l'avez dit, les États-Unis, ils ont déjà un soft power très puissant, notamment culturel. On peut penser au cinéma. Après, au niveau du sport, ils ont déjà leur propre sport et qui parfois s'exporte très bien comme la NBA. Donc, dans cette tentative d'instrumentalisation, on peut se poser la question. Si Donald Trump et ses États-Unis qu'il veut en tout cas imposer, et sa vision qu'il veut imposer des États-Unis au monde, il n'a pas plus à perdre qu'à gagner.
Mmh. Il a un allié de taille hein, dans son entreprise, Donald Trump, c'est le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Vous l'avez rappelé, Gianni Infantino qui lui a remis le prix de la paix il y a quelques mois. Et ça reste vraiment en travers de la gorge de pas mal d'acteurs.
Oui, et surtout qu'au sein même de la FIFA, on ne comprend pas trop pourquoi il y a eu ce prix de la paix de la FIFA, qui est une totale nouveauté et qui est totalement absurde, surtout quand on prend en considération le contexte géopolitique de début 2026 avec les États-Unis qui attaquent le Venezuela puis l'Iran. On a plus l'impression que c'est Gianni Infantino qui a voulu faire un cadeau à son ami Donald Trump parce qu'il n'avait pas reçu le prix Nobel de la paix. Et cette cérémonie en fait, de tirage au sort, elle est assez symptomatique de tous les cadeaux que fait la FIFA et surtout Gianni Infantino vis-à-vis de Donald Trump, puisque ça avait lieu au Kennedy Center à Washington, donc dans un haut lieu du trumpisme culturel, avec ce prix de la FIFA, on aurait pu s'attendre à un lieu qui incarne plus la co-organisation de ce mondial. Là, vous aurez effectivement 3 cérémonies d'ouverture pour cette Coupe du Monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart des matchs ont lieu aux États-Unis et que, en tout cas, ce qui ressort de cette Coupe du Monde, c'est que ça va être la Coupe du Monde organisée par les États-Unis, instrumentalisée ou non par Trump. Ça, pour l'instant, ça reste à voir, mais en tout cas, elle a été beaucoup instrumentalisée par Trump en amont de cette compétition.
Kevin Vessière, au fil des éditions, cette Coupe du Monde, elle a changé d'échelle. Julie le disait tout à l'heure, 48 équipes cette fois-ci. Ça change quoi en fait ?
Ça change que vous avez donc plus de matchs et donc plus d'équipes qui participent. Mais si on lit à travers les lignes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux lignes en fait à lire finalement. C'est que on veut qu'il y ait plus de pays qui puissent participer, notamment plus de sélections africaines, notamment depuis que le Maroc a atteint cette demi-finale de Coupe du Monde en 2022. Donc on veut ouvrir la compétition à plus de sélections qui le méritent sur le plan sportif. Après, la deuxième ligne de lecture qu'il faut avoir, c'est que c'est une ligne très cynique du football et très autour de la financiarisation du football. Plus de matchs, ça implique plus de revenus pour la FIFA, dont 75% des revenus de ces 11 milliards sont issus de la Coupe du Monde. Et donc, ouvrir plus sa compétition, ça permet aussi de favoriser sa réélection et le nombre de voix qu'on va tirer au niveau de la FIFA. La FIFA, c'est 211 fédérations membres, une fédération égale une voix, donc Malte a autant de pouvoir que la France, par exemple. Et donc, si vous ouvrez plus la compétition à plus de pays et qu'après, les bénéfices de la Coupe du Monde en termes financiers retombe sur les fédérations, vous n'aurez aucun mal à être réélu. Et Infantino, c'est la troisième fois en tout cas qu'il est réélu sans opposition.
Alors, dans votre livre Mondial 2026, vous nous racontez plein d'histoires hein, depuis le début de la Coupe du Monde dans les années 30. J'avais envie d'épingler celle-ci. Il y en a beaucoup qui se réjouissent ici en Belgique de la participation de la République démocratique du Congo, avec l'espoir que ça se passe mieux qu'en 74. Vous rappelez le fiasco qu'a été la participation des Léopards sous l'ère Mobutu.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, à travers 26 histoires, je retrace toute l'histoire politique des Coupes du Monde, avec en tout cas à chaque fois des faits saillants. Là, pour 1974, c'était la première participation de ce qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, mais à l'époque le Zaïre, parce qu'en fait, Mobutu, il avait misé sur le sport comme outil de valorisation de ce nouveau nom de ce pays Zaïre, et aussi de son régime politique. Le problème, c'est que durant cette compétition, même si le Zaïre est champion d'Afrique, tout va mal se passer parce qu'ils vont perdre tous leurs matchs, notamment une grande défaite contre l'équipe de Yougoslavie.
9-0.
Une situation 9-0. Une situation ubuesque contre le Brésil parce qu'il y a un joueur qui sort du mur lorsqu'il y a un coup franc. Donc on se pose la question, est-ce que les joueurs du Zaïre savent vraiment jouer au football? Mais en fait, en lisant derrière les lignes, c'est beaucoup plus triste que ça. C'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de pression politique autour des joueurs, aussi au niveau de leur famille. Et qu'en fait, finalement, c'est des joueurs qui sont accaparés par le régime et qui ne peuvent pas jouer dans des bonnes conditions leur mondial et qui ont en fait... qui ont finalement peur à chaque fois qu'ils vont fouler la compétition. Et donc, après ce fiasco, Mobutu va beaucoup moins investir dans le football et il faudra patiemment se reconstruire pour la République démocratique du Congo. Et en tout cas, on espère que pour 2026, l'histoire sera plus belle pour ces Léopards.
Une autre histoire, nous sommes maintenant en 1982 et c'est la France qui affronte le Koweït avec le frère de l'émir qui descend sur la pelouse pour contester un but. C'est ce que vous appelez le premier arbitrage diplomatique, Kevin Vessière.
Oui, c'est ça. Après, c'est pour un peu la formule pour trouver un titre de chapitre. Mais ce qui est intéressant avec 82 et Koweït, c'est que là, vous avez aussi une ouverture de la Coupe du Monde à plus de pays. Et le Koweït, à l'époque, c'est vraiment le Qatar. C'est le premier financeur, en fait. C'est l'un des nouveaux financeurs de la FIFA. Et donc, c'est pour ça que la FIFA aussi ouvre plus sa compétition. Et le Koweït mise beaucoup sur le sport. Et donc, ça va être une première participation. Et là aussi, l'idée, c'est une première participation pour un pays, notamment comme le Koweït, qui investit beaucoup dans le sport à l'époque. C'est de briller, et de briller en tout cas par le résultat. Le problème, c'est qu'il joue contre l'équipe de France, une équipe favorite. Il se prennent un but de l'équipe de France. Il y a une suspicion d'hors-jeu. Et là, les joueurs du Koweït ne veulent pas reprendre le jeu. Ils appellent quelqu'un dans les tribunes. Et en fait, cette personne dans les tribunes, c'est le président de la fédération du Koweït, le frère de l'émir du Koweït, qui a beaucoup de pouvoir politique, notamment vis-à-vis de la FIFA. Et il va descendre sur du stade, des tribunes, pour aller parler à l'arbitre. Et l'arbitre, il va tout simplement annuler le but parce que l'arbitre il est pris entre deux eaux, entre le fait finalement de savoir si les joueurs vont se retirer du match, lui ça peut lui arriver, ça peut lui faire après beaucoup de problématiques, et finalement c'est lui qui va en subir les conséquences puisqu'il va être radié de la FIFA, des arbitres de la FIFA, alors que l'émir du Koweït aura juste une simple sanction parce que cela s'explique notamment, enfin, une faible fonction financière, cela s'explique par le fait que le Koweït était à l'époque un financeur important de la FIFA.
Mmh. Terminons peut-être par l'Iran, hein, qu'on a déjà évoqué. Toute l'attention sera focalisée sur cette équipe d'Iran que doit affronter la Belgique d'ailleurs. L'Iran aux États-Unis en pleine guerre entre les deux nations, c'est évidemment quelque chose de spécial. En 98, le match des États-Unis-Iran avait lui aussi attiré l'attention. Il avait été rebaptisé le match de la paix. Il avait joué un vrai rôle diplomatique, ce match ?
Il nous reste une petite minute.
Il avait joué un rôle diplomatique parce qu'en fait, l'entreprise diplomatique de ce match de la paix avait été préparée en amont par le pouvoir politique américain et le pouvoir politique iranien. Donc il y a eu 6 mois en amont du match où il y a eu un terrain qui a été préparé pour que le jour du match, il y ait un échange de fleurs, il y ait une photo entre les deux équipes qui soient...
Les deux capitaines qui se sont longuement serré la main.
Ouais. Et donc après, ça a pu être en tout cas un symbole pour une reprise diplomatique des relations qui étaient rompues depuis 1979. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas-là. On est face à, en tout cas, les États-Unis qui ont attaqué en tout cas l'Iran, et donc une équipe d'Iran qui voudra, si elle peut jouer sur le sol américain, incarner cette image de pays qui lutte face à l'oppresseur américain. Et donc, en tout cas, il faudra analyser et voir ce que vont faire les joueurs, notamment lors de la cérémonie des hymnes, pour notamment peut-être critiquer cette organisation américaine et critiquer le régime américain.
À suivre dans pas trop longtemps, a priori. Merci beaucoup, Kevin Vessière, d'avoir été notre invité ce soir. Mondial 2026, c'est le titre de votre livre chez Max Millau.